donc j'ai en gros jusqu'à... Oui, alors il est 35.
Non, vous avez 45 minutes.
Bonne minute.
Ok, ok. Bon, je fais de mon mieux pour essayer de ne pas être trop long et pour que vous ayez un temps de questions possible. Donc déjà, je remercie les princes qui ont eu l'idée de faire un cycle qui soit un tout petit peu en rapport avec l'arrivée de votre nouvel aumônier. Voilà, donc un cycle de conférences qui s'appelle Art et Foi. Vous verrez que de semaine en semaine, on va, pendant 5 ou 6, 7 semaines, 6 semaines, on va explorer ce thème-là. Et donc ça m'a semblé pas inintéressant, en tout cas, d'entrer dans ce cycle de conférences. Alors déjà par une présentation, quelque chose qui renvoie à ma thèse à l'origine, mais qui renvoie surtout aussi à une question que j'avais, hein, qui était de se dire, tiens, mais est-ce que je peux dire que je vois Dieu à travers l'art? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'art qui me permet, en fait, de toucher quelque chose de Dieu? Sachant que moi, je faisais moi-même cette expérience d'être ému, d'être conduit, hein, à mieux aimer Dieu et à voir surtout notamment la parole de Dieu s'ouvrir davantage pour moi à travers les œuvres d'art. Alors d'abord, je voudrais simplement, en guise d'introduction, vous allez voir quelques œuvres d'art d'époques différentes, hein, mais évidemment là, ça c'est Ravenne, donc c'est 5e siècle, mais surtout je renvoie à une expérience, mon expérience, elle renvoie à une expérience d'un père de l'Église, Grégoire de Nice, hein, donc les Cappadociens, donc au 4e siècle, déjà lui, il va dire, donc j'ai vu souvent peinte l'image de la souffrance d'Abraham et Isaac, et je n'ai pu m'empêcher de pleurer à ce spectacle, car c'est avec éclat que l'art présentait l'histoire à mes yeux. Et ensuite il décrit la scène, alors là c'est à travers un élève un peu lointain de Michel-Ange en Espagne, Alonso Berruguete. Isaac est placé devant son père, le long de l'autel, il est agenouillé, il a les mains tirées derrière le dos. Lui a posé ses pieds par derrière sur ses jarrets et tire vers l'arrière la chevelure de l'enfant de sa main gauche. Vous voyez, je vous mets différentes représentations de l'art occidental, hein, parce que il se penche vers le visage qui le regarde de manière pitoyable et il brandit sa main droite armée d'un glaive pour l'égorger. La pointe du glaive touche déjà le corps et alors survient pour lui une parole venue de Dieu qui empêche l'acte. Voilà. Bon, donc, à travers ça, vous voyez, on a un petit peu traversé en fait toute une partie de l'art occidental, hein, là évidemment avec Caravage. Et cette expérience, elle va très souvent, on va dire, donc moi, il y a une expérience d'abord qui est celle de la variété de l'art d'Occident, d'être touché par cet art-là notamment, et me dire, est-ce qu'il peut nous conduire à Dieu? Donc quelque part, ça a été le point de départ de mes recherches en théologie, alors qu'au départ, j'avais déjà une thèse en histoire de l'art. Ma deuxième thèse, elle a été pour, en quelque sorte, on pourrait dire, explorer une expérience spirituelle qui est celle, en fait, de se sentir touché par l'art, et se dire, mais est-ce qu'il peut me conduire à Dieu? Et sous quelles conditions est-ce qu'on peut dire que l'art me permet, en quelque sorte, de voir Dieu, de faire une expérience de la présence de Dieu? Alors évidemment, si on parle de voir Dieu, notamment à travers les images, ce qu'on va vous donner comme image un peu paradigmatique, hein, une image première, ça va être de vous mettre devant des icônes. Alors évidemment ici, là je vous mets peut-être la plus ancienne icône frontale de Jésus-Christ, hein, qui aujourd'hui est conservée donc au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, dans l'actuelle Égypte, voilà, et qui est une icône très ancienne, 6e siècle, donc qui va dater d'avant la crise, hein, où il y a eu une sorte de vertige dans l'Église devant la multiplication des images, et justement parce qu'on s'est dit, mais c'est pas si évident de voir Dieu à travers les images, qu'au 8e siècle, il y a eu une crise qu'on appelle, vous le savez, la crise iconoclaste, à travers laquelle on a détruit la plupart, la très très grande majorité, en fait, des icônes d'Orient, et les seules qui ont été conservées, c'est parce qu'elles étaient dans ce petit monastère au fin fond du désert du Sinaï, au pied de la montagne où on fait mémoire de la montée de Moïse sur la montagne et puis du buisson ardent. Hein. Donc cette expérience-là, ça va être quoi? Comment est-ce qu'on va la comprendre? On va dire, qu'est-ce qui me permet de dire qu'à travers une œuvre comme ça, je peux voir Dieu? Alors évidemment, on va justifier de manière première la possibilité de voir Dieu par le fait de l'incarnation. Hein. Puisque Dieu s'est incarné, puisqu'il a pris un visage humain, eh bien, je peux dire que ce que je vois de Dieu, ce sera Jean Damascène qui dira ça, c'est le visible de Dieu, c'est-à-dire le Christ qui s'est fait homme pour nous. Et ce qu'on va répondre aux iconoclastes, dans un premier temps, en tout cas c'est un peu l'idée qu'on a généralement de l'icône et de la possibilité de voir Dieu à travers elle, c'est de dire que je ne suis pas idolâtre quand je me prosterne devant une icône, puisqu'au 8e siècle, on vénère les icônes en se prosternant devant elles, en les embrassant. En fait, en réalité, si vous allez notamment chez les sœurs de Bethléem, vous verrez cette expérience-là, hein, au milieu d'une célébration, les gens viennent, ils font ce qu'on appelle des métanies, ils s'inclinent devant l'icône, ils viennent l'embrasser, ils viennent mettre leur front contre l'icône. Et l'idée, c'est vraiment qu'à travers ce visage, eh bien, ce que je vise, c'est un au-delà de l'image que donc le concile de Nicée II, donc, qui est le 7e concile de l'Église indivise. Donc les grands conciles ont été faits pour répondre à des hérésies. En fait, j'étais déjà intervenu auprès des Thalas il y a quelques années, je pense 3 ans, quelque chose comme ça, parce que vous allez faire un cycle sur les hérésies, donc moi j'étais intervenu sur l'iconoclasme, comme simple archicube à l'époque. Et donc ce concile est celui qui vient, en quelque sorte, définir les images, où l'Église se prononce pour dire « voilà pourquoi nous ne sommes pas idolâtres quand nous vénérons les images ». Et elle va donner 2 justifications, en tout cas c'est en général, si vous ouvrez des bouquins, donc, c'est-à-dire si vous ouvrez à peu près tous les bouquins, sauf le mien, qui a été publié sur ma thèse, moi je suis une position très minoritaire dans l'interprétation du concile, mais parfois il faut être minoritaire et se dire que peut-être quand même on croit que c'est vrai. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, je dis que je crois que c'est vrai. C'est pas exactement pareil, on cherche la vérité. Mais en gros, l'interprétation commune, elle part de 2 phrases qui ont été dans la déclaration finale du concile. Une déclaration finale, c'est un moment où l'Église se prononce en disant « si on se tient dans ces limites-là, on est dans la foi chrétienne ». Et donc nous, on dit que nous ne sommes pas idolâtres quand nous avons des images, parce que quand je vénère une image du Christ, eh bien l'honneur rendu à l'image parvient au prototype. Donc là, j'explique brièvement. Le rapport image-prototype, ça vient de manière assez directe, assez peu lointaine de la philosophie platonicienne. Hein, on va considérer qu'il y a, par exemple, sur cette table, il y a une idée de la table, un prototype de la table, qui va être la table parfaite, d'où découlent toutes les autres tables qui sont en ce monde. Hein, on va chercher à du mobile et du mouvant, faire surgir quelque chose de stable. Hein, ça va être un des mouvements de la pensée grecque. Et donc, on va dire, au fond, la table participe du prototype, hein, de l'idée de la table. Voilà. Là, transposé à l'icône, ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, l'image en elle-même, ce n'est pas l'image que je vénère, mais l'image, à la fois, elle est différente du prototype et elle lui ressemble. Donc le Christ que je vois dans l'image, eh bien, ce n'est pas Jésus lui-même. J'ai conscience que quand je me prosterne devant l'image, ce n'est pas, l'image n'est pas Jésus. Mais l'honneur que je rends, la vénération, voire l'adoration que je rends à l'image, bien en quelque sorte, dans un mouvement ascendant, va vers le prototype glorieux qui est représenté par l'image. Ça va jusque-là ? Oui, hein ? Donc en quelque sorte, si je dis ça d'une certaine, en résumant encore de manière plus compacte, on peut dire que l'image est en quelque sorte, dans cette théologie classique de l'icône, elle est une sorte de fenêtre ouverte sur la gloire. Hein, je ne peux pas voir le Christ ici-bas, il est monté auprès du Père, mais à travers l'icône, je peux atteindre quelque chose de lui, il y a quelque chose de sa présence qui est toujours là, et donc je vais, à travers l'image, atteindre le prototype, et le Concile redouble cette formule, en empruntant cette fois, donc, parce que vous voyez, on se prévaut toujours des pères de l'Église, donc on se prévaut des autorités qui ont dans la foi déjà dit quelque chose sur ces sujets-là, et on va s'en servir pour affirmer la foi davantage. C'est le mouvement de la tradition que de toujours dire, quand on énonce quelque chose de nouveau, on ne change rien, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on peut dire un truc différent. Ça c'est l'Église, toujours fidèle et en même temps toujours en réinvention. Voilà. Et donc la deuxième formule, elle va être reprise à Athanase d'Alexandrie, qui va dire « qui vénère l'image, vénère en elle l'hypostase de celui qui y est représenté. Hein ». Ça veut dire quoi ? Hypostase, c'est un autre nom de personne. Hein, hypostase, hein, hypostasis en grec, bon, on va dire, j'ai devant moi tellement de spécialistes que je tremble en parlant. Alors hypostasis, en fait, est un mot qui va avoir une longue fortune, assez complexe, avant d'en venir à vouloir dire l'équivalent du mot personne, hein, du mot persona en latin, ou prosopone en grec aussi, on va allier des termes différents, mais en gros, ça va renvoyer donc à la réalité absolument unique et singulière du Verbe de Dieu, du Fils unique qui s'est fait chair dans le Christ. Là, ça va encore aussi, je ne vous ai pas perdu, voilà, donc à travers ça. Et en fait, ces deux phrases qui sont citées sont extraites de sermons des Pères de l'Église, où dans chaque cas, les Pères de l'Église, en fait, prenaient comme exemple l'image de l'empereur. Quand, parce qu'à l'époque où on a détruit les images, en fait, il y avait des tas d'images de l'empereur partout, et par exemple, quand l'empereur n'était pas dans telle ou telle ville, dans les lieux où on exerçait la juridiction au nom de l'empereur, il y avait un portrait de l'empereur devant lequel on se prosternait. Et donc les pères vont dire, bah, de la même manière qu'on se prosterne devant l'empereur et qu'on sait que l'image n'est pas l'empereur, pour autant, la vénération que j'adresse à l'image, eh bien, s'adresse aussi à l'empereur lui-même. Voilà. Donc c'est un peu l'exemple classique de ce qui est dit à travers tout ça. Alors en même temps, cette solution ne résout pas vraiment les choses. Là, je ne vous ai pas mis la phrase d'un théologien orthodoxe qui s'appelle Bulgakov, hein, mais Bulgakov dira, et en fait en ça il ne fait que reproduire finalement les arguments de certains iconoclastes, dont un empereur qui était l'empereur Constantin V, hein, qui régnait au 8e siècle, et qui va dire... En fait, vous pouvez toujours dire que vous représentez Dieu dans cette image, mais au fond, si vous dites que vous vous prosternez devant Dieu quand vous vous prosternez devant l'image du Christ, vous êtes en quelque sorte hérétique, vous êtes nestorien, le nestorianisme étant une hérésie qui sépare dans le Christ Dieu et l'homme en faisant qu'il y a en quelque sorte deux personnes, une personne humaine et une personne divine, qui seraient étroitement associés, donc Dieu se serait associé à une personne humaine, donc au lieu de vraiment s'incarner, il aura entre guillemets, je fais très basique, mais il aura en quelque sorte pris les manettes, hein, d'un humain, il l'aurait associé profondément à sa vie, on va dire que c'est une forme sophistiquée d'une autre hérésie qu'on appelle l'adoptionnisme, où Dieu adopte un humain. Vous voyez, toutes les hérésies, c'est des moments où notre esprit, qui a du mal à s'élever vers le mystère divin, le rapatrie dans nos propres critères de compréhension. C'est beaucoup plus facile de se dire que Jésus, c'est un homme que Dieu a adopté, que de se dire qu'il est la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée parmi nous pour prendre notre vie et libérer notre liberté de l'intérieur. L'empereur Constantin V, qui était iconoclaste, va dire, bah, si vous faites ça, vous ne vénérez que l'humanité du Christ. Alors, on avait prétendu répondre en disant, mais non, en fait, on ne se prosterne pas devant la nature humaine du Christ, on se prosterne devant sa personne, devant son visage. Hein, c'est-à-dire que chacune de nos personnes se traduit dans un visage absolument unique. Donc ce qui se traduit dans la visibilité du Christ, c'est sa personne unique, c'est sa singularité, mais qui évidemment se donne à voir dans un visage. Voilà, simplement, le théologien orthodoxe Bulgakov va dire, ben, en fait, on n'a pas vraiment répondu à la question. Ce qu'on a beau dire, qu'en se prosternant devant l'image, on se prosterne devant Dieu qui s'est fait homme, ben, en fait, l'image... Quoi qu'on fasse, elle représente l'humanité qu'a assumé le Verbe divin. Mais si je suis athée, ben je vais regarder l'image et je vais dire, ben oui, ben c'est l'image d'un homme. Ça va, vous voyez l'objection? Vous voyez un peu le sens de l'objection. Et donc c'est ça que moi qui m'a conduit à plonger plus profond dans le Concile de Nicée II et à aller explorer la définition en allant chercher la définition complète qui n'est pas exploitée en général, tout simplement parce qu'elle n'a pas été reproduite dans un gros volume qu'on appelle le Denzinger, hein, qui reprend toutes les déclarations de foi de l'Église. Et comme Denzinger, ce bon chercheur allemand, eh bien, n'a pas jugé bon de mettre ce paragraphe a été totalement ignoré et très très peu utilisé dans l'historiographie sur Nicée II. Or, c'est là qu'en réalité, les pères ont vraiment défini l'image. Alors, on va passer un petit peu de temps sur cette définition, mais c'est important parce que c'est à travers cette définition que l'Église a dit « Voilà comment les images sont légitimes et voilà comment on dit que nous disons que nous pouvons, dans une certaine mesure, dire que nous voyons Dieu dans les images. » Alors, vous allez voir qu'il y a deux couples de termes qui sont mis en parallèle. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, la manière dont l'Église procède, c'est toujours comme ça. Nous gardons, sans rien innover, toutes les traditions de l'Église. Donc on va commencer par dire que tout est pareil qu'avant, mais en fait on est quand même en train de dire quelque chose qui vient du dépôt de la foi, mais qu'on est obligé de travailler de manière nouvelle, qui est à l'intérieur en fait de la cohérence de la foi, mais qu'on est obligé de faire venir à l'explicite. Vous voyez, tant qu'on avait les images et que c'était accepté par tous, on n'avait pas besoin d'y réfléchir. Mais le jour où les images sont remises en cause, on a besoin de faire venir à l'explicite quelque chose qui était déjà contenu dans la foi, mais que désormais il faut qu'on explicite. Hein, donc c'est ce que Maurice Blondel, ce philosophe Thala, dont nous espérons un jour la canonisation, hein, on vous fera peut-être passer, d'ailleurs on en a parlé, une prière pour la canonisation de Maurice Blondel. Il y a vraiment un procès de béatification qui est ouvert pour lui. Hein, c'est vraiment un saint philosophe, voilà. Et lui, il a réfléchi sur la tradition et il dit, qu'est-ce que c'est que la tradition de l'Église ? C'est le passage d'un implicite vécu, c'est-à-dire je possède cette réalité des images naturellement, tout le monde vit avec sans se poser de questions, et le passage de cet implicite vécu à un explicite connu qui est rendu nécessaire par le fait que les choses sont remises en cause. Hein, voilà. Et donc, nous gardons sans rien innover, donc mouvement de la tradition, toutes les traditions de l'Église, qu'elles aient été décrétées pour nous par écrit ou autrement que par écrit. Hein. Et donc pour eux, par écrit, ça peut vouloir dire à travers aussi les pères de l'Église. Hein. Donc c'est l'écriture et les pères de l'Église, et autrement que par écrit, ça va être les coutumes chrétiennes, la manière de faire, la liturgie, etc. L'une d'entre elles consiste notamment, donc là je vous ai mis le grec quand même, parce qu'il y a plein de gens qui sont au DSA ici, donc... Il faut que j'essaie d'être un peu crédible. Voilà, et je serais peut-être que vous allez me dire que je me suis complètement planté sur ma thèse, ce qui m'embêterait un petit peu, à vrai dire. Voilà, l'une d'entre elles consiste notamment, donc, alors, premier jeu de trois termes. Vous voyez, ils auraient pu dire à icône, pour parler de l'image, mais ils vont utiliser un jeu de trois termes. L'une d'entre elles consiste notamment en l'expression du modèle à travers la représentation par l'image. Et es eikonikes anasographes eos ectupossis. En tant qu'elle entre en consonance avec, deuxième jeu de trois termes, l'histoire de la proclamation de l'Évangile. Hein, te historia tu evangelicu kerygmatos. Donc ça veut dire qu'on a deux jeux de trois termes. Vous voyez, c'est une définition qui est assez complexe, très réfléchie. Et vous voyez que ces deux jeux de trois termes sont unis par un participe présent. Vous me direz si c'est... Sunadusa, oui, c'est par un participe présent féminin. Bon, bref, de Sunadein. Je suis désolé, moi, mon grec. Moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc il faut tout le temps que je reparte dans les grammaires. Mais j'ai fait du grec depuis que j'ai 13 ans, j'ai jamais arrêté dans ma vie, donc normalement, ça va. Mais vous voyez, c'est entrer en consonance. Donc vous voyez qu'il y a ces deux jeux de trois termes qui sont mis dans un rapport de consonance. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pour parler des images, pour parler de la visibilité, on va aussi avoir recours à un vocabulaire musical, hein, ce verbe sunado, sunadein, il veut dire chanter ensemble, consonner, il va signifier chez les philosophes comme Aristote ou chez Platon la cohérence des arguments, et ça va être repris par les pères de l'Église pour dire l'unité de l'Écriture sainte, le fait que les versets consonnent les uns avec les autres et qu'aucun verset de l'Écriture ne contredit un autre verset. Hein, donc les termes sont choisis, et... D'abord, je vais vous parler du premier jeu de trois termes. Donc, on aurait pu dire des images, mais ils choisissent d'utiliser un vocabulaire extrêmement complexe, extrêmement peaufiné, pour dire, voilà, il s'agit d'abord de l'expression du modèle, donc le terme le plus important là-dedans, ça va être ectupossis, à travers la représentation par l'image. Alors, ce terme d'ectupossis, hein, vous voyez, il traduit le mouvement d'expression, hein, à travers le préfixe ec, enfin, la préposition, hein, ec. Et puis, tupossis, évidemment, ça vient de tupos, donc ça vient du fait qu'il y a un prototype qui s'exprime dans l'image. Et ce terme, où est-ce qu'ils sont allés le chercher? Ils sont allés le chercher dans des sermons des pères de l'Église, où le verbe ectupoo, hein, c'est-à-dire s'exprimer, exprimer son être, eh bien, en fait, va renvoyer à l'expression du Père éternel dans le Fils unique, dans la vie de la Trinité elle-même. Donc, en Dieu, hein, les pères vont dire... Eh bien, l'image éternelle qui est le Fils exprime en elle-même, ectupoussa, hein, cette icône, elle vient exprimer en, tout ce qu'est le Père. Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt de faire ça, c'est de dire, ben, si nous on fait des images, c'est parce que le mouvement d'expression qui qui fait passer ce qui est invisible à ce qui est visible, ça commence en Dieu lui-même. C'est le Dieu invisible qui déjà en lui-même vient, entre guillemets, prononcer son nom éternellement. Vous savez qu'à un moment de la Bible, Dieu vient prononcer son nom à Moïse. Hein, il vient dire « le Seigneur, plein de grâce et de vérité, hein, d'amour et de fidélité ». Quelque chose qui va être revu par le prologue de Saint Jean, où Saint Jean va dire bah, « Regardez, Moïse a été dépositaire de la loi, mais celui qui a Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais celui hein, qui est contre le sein du Père, lui nous a fait le récit de ce qu'il y avait en Dieu. Hein, » Donc, vous voyez, les pères vont chercher dans la théologie trinitaire un terme pour exprimer ce que vont être les images. Ça va ? Vous n'êtes pas trop... Okay. Et donc, si on suit bien, ben, le Père éternel va s'exprimer dans le Fils. Et en fait, ce qui est regardé comme processus, c'est que dans l'image, il y a un modèle qui vient s'exprimer à travers une représentation, l'anatzographesis. Et ça, au bout du compte, ça va donner une image. Donc, si vous voulez aller dans une sorte de sens un peu chronologique... Ah oui, j'ai un pointeur laser. Eh bien, vous commencez par ectuposis, c'est la dimension première. Hein, ça commence par s'exprimer, ça en vient à une représentation qui va aboutir à ce que c'est que l'image. Ça va ? Donc, en fait, l'image, elle n'est pas regardée comme un truc figé, elle est regardée comme un processus dynamique qui part de l'invisible et qui va vers la visibilité. Ça va encore ? Oui, c'est bon, je ne veux pas que je vous paume parce que... Et donc après, voilà le second jeu de trois termes. Alors... Oui, alors déjà, vous voyez qu'en fait, donc ça veut dire qu'il y a un double niveau d'expressivité. Hein, le Père va s'exprimer dans le Fils. Et donc, c'est ça qui va être la source dans le monde, du fait qu'un prototype va s'exprimer dans l'image, et surtout que l'image va pouvoir renvoyer au prototype. Si je reprends la toute première formule qu'on avait vue, si je reviens à ça, l'honneur rendu à l'image au prototype, bon, l'honneur rendu à l'image va jusqu'au prototype, c'était un mouvement ascendant. Ce que vient de dire la définition, elle vient de dire, mais en fait, si je peux faire ce mouvement de transitus, donc de mouvement de l'image vers le prototype, c'est parce que le prototype, le premier, a d'abord voulu s'exprimer de manière visible. C'est parce que Dieu lui-même a voulu le faire. Donc en fait, si on peut remonter vers Dieu, c'est toujours parce que Dieu, le premier, est condescendu vers nous. Ça va ? Voilà. À partir de là, il va y avoir le deuxième groupe, où cette fois... Le terme le plus important, ça va être l'historia. Donc on va dire, pour que cette image, cette expression, ce mouvement de dynamique de l'image qui quelque part advient, pour qu'elle soit valable, pour qu'elle soit légitime pour l'Église, il faut qu'elle entre en consonance avec l'histoire de la proclamation de l'Évangile. Alors là, vous voyez, les choses vont fonctionner un peu différemment, parce que tout à l'heure, donc ectuposis, c'était le terme premier, et puis on allait vers le mouvement de vous voyez, le premier terme était là, chronologiquement, si on veut. On sait, il y a une expression qui passe par la représentation pour aboutir à l'image. Ici, le premier terme en fait, est en fait l'aboutissement du processus. Au tout départ, il y a quoi ? Il y a d'abord l'évangile. Hein. L'évangile, c'est quoi ? C'est la venue de Dieu dans l'histoire. Si je devais dire qui est l'évangile, au premier sens, l'évangile, c'est Jésus-Christ, en fait. C'est lui qui vient à la fois annoncer la bonne nouvelle, on peut dire, mais en fait, il l'annonce d'abord par sa vie. Donc, ce qui s'est passé, quand est-ce que Dieu s'est exprimé dans l'histoire, puisqu'on a fait une référence à la Trinité, quand est-ce que Dieu s'est rendu visible dans l'histoire ? Ben, le jour où, dans l'évangile, il s'est révélé parmi nous. Ça va ? Et donc cet évangile ensuite, il a été proclamé. Il a été proclamé dans une proclamation, un kérigme, hein, qui va être l'annonce elle-même de l'évangile sur la terre par les apôtres. Ça va être cette proclamation. Jésus est mort, ressuscité et remonté aux cieux, mais les apôtres vont proclamer cet évangile. Et une fois qu'ils auront proclamé cet évangile, ben, à la mort des apôtres, on va décider de mettre l'évangile à l'écrit, et donc on va en faire une histoire, c'est-à-dire qu'on va mettre ça par écrit. Le mot « historia » en grec, il va avoir trois sens. Son premier sens, c'est la lettre de l'histoire, la lettre de la Bible, c'est-à-dire le récit qu'on va faire. Donc, c'est-à-dire le dépôt matériel, vous voyez, du récit évangélique. Deuxième sens de « historia », et là encore, les pères, ils ont choisi ce terme-là, si vous voulez. qu'ils auraient très bien pu prendre diégésis ou exégésis, qui veulent dire narration. Et dans les sessions préparatoires du concile, quand les pères se sont réunis, qu'ils ont beaucoup discuté entre eux pour savoir ce qu'ils allaient dire à la fin, ils ont surtout employé les termes exégésis et diégésis. Mais au moment de se prononcer, ils choisissent le terme historien. Donc ce terme, il a son importance. Premier sens, donc, c'est la lettre de la Bible, le sens au sens matériel. Voilà, il y a une matérialité du récit qui est fait. Le deuxième sens d'historia, c'est précisément le mot, la dimension de récit. C'est-à-dire que c'est une narration. Ce qui est raconté, c'est d'abord narratif, et dans la Bible, la plupart des livres, en tout cas beaucoup des livres bibliques, sont des livres narratifs, à commencer par les évangiles. Mais historia a un dernier sens, et ce dernier sens, c'est qu'il va représenter, il va signifier, les historiés, à l'époque de Nicée II, on en a l'exemple dans une lettre qui est envoyée par le pape Adrien au père du concile, les historiés, ça va désigner, en fait, déjà à l'époque du concile, la mise en image du récit évangélique qui va être souvent représenté le long des nefs dans les grandes basiliques anciennes. Là, si je vous ai mis cette image-là, c'est parce que c'est une image de Saint Paul hors les murs avant son incendie. Vous voyez, moi, je travaille sur Notre-Dame après son incendie, mais Saint Paul hors les murs a brûlé aussi au 19e. Donc elle a été reconstruite. Quand on va à Saint Paul hors les murs aujourd'hui, évidemment, c'est une basilique entièrement reconstruite. Mais elle a été conservée très tardivement, et donc on a des tableaux 18e qui vont représenter la configuration interne de Saint-Paul-hors-les-Murs. Et Saint-Paul-hors-les-Murs allait avoir toute une série d'images qu'on appelait des historiés. Et puis, à l'Orient, on allait avoir donc une arche glorieuse avec l'image du Pantocrator, donc une image glorieuse. Et puis au fond, là encore, l'image du Christ avec éventuellement le saint qui est représenté dans l'Église. Donc si vous voulez, ce que ça veut dire... Hein, c'est que les pères, ils choisissent, pour définir les images, ils vont dire c'est quoi le critère d'une image. C'est une image qui s'exprime de l'invisible vers le visible, en consonant avec quoi? Avec la première expression de cette venue à la visibilité de Dieu, qui est que Dieu s'est incarné dans l'histoire des hommes, dans l'Évangile. Et donc, si vous voulez, le paradigme de l'image à Nicée II et le paradigme de l'image chrétienne, c'est pas d'abord l'image frontale, c'est l'image narrative, et c'est même une série d'images narratives. C'est-à-dire que ce qui va être donné comme... Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une image frontale. Hein. La meilleure preuve, c'est que dans les basiliques anciennes, eh bien, on allait avoir une image frontale au niveau de l'Orient. Donc là où, quelque part, on se tournait vers Dieu qui vient de l'Orient, vers la dimension eschatologique, vers le Dieu qui vient se révéler à nous d'au-delà de l'histoire. Mais pour pouvoir attester que Dieu est Dieu, quelque part, il faut toujours que je fasse mémoire de toute l'histoire de l'Évangile qui va me dire qu'à travers toutes ces scènes, je peux dire que Dieu est vraiment Dieu parce qu'il s'est révélé dans toute l'histoire de l'Évangile, qu'il est mort et que par une visibilité inouïe, il s'est représenté vivant d'au-delà de la mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paradigme de la visibilité chrétienne, c'est pas une image qui est une fenêtre sur l'invisible, sur la gloire, mais c'est une image qui est en fait une fenêtre sur l'histoire. Si vous voulez, il y a une sorte de médiation qui s'insère entre... alors là, j'y reviendrai sur cette image après... Voilà. Là, vous avez, si vous voulez, la première version du prototype que je vous avais décrite, hein, c'est-à-dire l'image renvoie au prototype, et puis le prototype, l'image participe du prototype. Et à droite, vous avez la reconfiguration chrétienne de la notion de prototype qu'opère le concile de Nicée II. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une pure verticalité, eh bien, la Trinité vient s'exprimer d'abord dans l'Évangile, qui est le véritable prototype de toutes les images chrétiennes. Et quand je représente des images, quand je me prosterne devant des images, je me représente devant les images qui disent que cette histoire du Christ qui s'est incarné parmi nous ne passe jamais. Donc si vous voulez, l'intermédiaire, il y a un lieu intermédiaire qui est cette horizontale de la présence du Christ. Donc vous voyez, l'image, elle est toujours présentée en polarité avec l'annonce évangélique. Et donc ça veut dire... que quand nous disons « je vois Dieu dans les images », c'est vrai, mais parce que je vois Dieu à travers la mémoire de sa descente dans l'histoire des hommes. Donc l'image pour le redire encore, n'est pas une fenêtre sur la gloire, elle est une fenêtre sur l'historia, sur une histoire qui ne passe pas et ne passera jamais. Alors évidemment, ça fait toujours appel à la foi, mais ce qui est plus intéressant dans cette définition ecclésiale, c'est que quelque part, vous voyez, ce n'est pas une seule image qui va nous dire Dieu, mais c'est toutes les images qui représentent toute l'histoire du Christ. Et donc, à travers cet enchaînement des images, on peut dire qu'à la fois, le Christ se rend vraiment visible, et qu'en même temps, dans cette visibilité, il y a toujours une part assumée d'invisible, puisqu'il faut toutes les images pour pouvoir dire la visibilité de Dieu. Et c'est en ça que c'est intéressant de voir la représentation d'une synagogue. Voilà, en fait, c'est la première synagogue que je vous montre, la plus ancienne synagogue qu'on conserve. Bon, allez, je ne sais pas à vrai dire en quel état elle est, parce que depuis qu'il y a eu la guerre en Syrie, on ne sait pas très bien dans quel état a été le musée de Damas. Mais donc, c'est une synagogue qu'on a retrouvée à Doura Europos, qui était ensevelie sous les sables et que donc on peut dater très précisément, hein, aux alentours de 245. C'est la plus ancienne synagogue jamais conservée. 3e siècle, donc quand on réfléchit par rapport au Christ, c'est pas très loin, en fait. Il y a des arrière-grands-parents qui ont connu Jésus facilement. Hein. C'est pas, ou peut-être des arrière-en-arrière si les générations s'enchaînent vite. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, je vous montrais ici l'histoire. Donc il faut l'histoire pour regarder vers la gloire. Mais chez les Juifs, eh ben, les synagogues, la plus ancienne synagogue qu'on conserve, est entièrement ornée. Donc de dire que le judaïsme est une religion aniconique, ça ne tient pas. L'archéologie dément ça en permanence, hein, parce que toutes les synagogues ultérieures, les plus anciennes qu'on va conserver, on en verra d'ailleurs quand on ira en Terre Sainte, qui sont du 6e siècle, et bien en fait, il y a des pavements de mosaïques qui sont ornés, là encore. Et donc, on peut penser qu'en fait, le judaïsme est devenu aniconique par une réaction contre le développement chrétien et par le développement des images chrétiennes. Et dans cette évolution terrible qui nous a un peu séparés du tronc initial, et dans le fait que bon, les chrétiens ont commencé par être virés des synagogues, puis ensuite les chrétiens sont devenus nombreux, puis après ça s'est mis à... Vous voyez, ces histoires fratricides, c'est dans ce mouvement-là qu'ils se sont mis à refuser les images. Mais au départ, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont... Toute la synagogue est couverte d'histoires de l'Ancien Testament, sauf la dimension frontale, où on va avoir 4 images différentes de Moïse, et au centre, au lieu d'avoir une image glorieuse, on va avoir quoi ? On va avoir l'armoire à Torah, le lieu où on réserve, où on détient l'écriture qui vient dire et qui vient être actualisée dans la liturgie pour dire « Regardez, Dieu est descendu parmi nous ». Donc si vous voulez, ce que je trouve très intéressant avec cette définition ecclésiale, c'est que ça nous maintient dans un lien extrêmement fort avec notre source, qui est la source juive, à cette différence près que pour nous, la loi s'est incarnée, elle a pris un visage et ce visage c'est Jésus-Christ. Mais même en Jésus-Christ, pour nous, il y a une sorte de médiation de l'histoire pour accéder à la révélation de Dieu. Ça va ? Ouais, c'est bon ? Je ne vous ai pas trop... Bon, super. Et alors, pour vous dire, du coup, c'est là que ça impacte les choses et que ça nous amène à re-regarder cette première icône que je vous ai montrée un peu différemment. À gauche, je vous la montre telle qu'elle était avant sa restauration. Et, si vous voulez, vous avez une icône qui fait penser à toutes les icônes, très frontales, avec un Christ bien glorieux, etc., un fond vert, bon, un peu particulier. Et quand on a nettoyé cette icône, dans les années 60, on s'est rendu compte, en fait, qu'elle n'était pas aussi frontale que ça. Que derrière le Christ, vous voyez, il y a une sorte d'exèdre, donc une construction... architecturale, un peu avec une forme de demi-cercle externe, donc avec deux frontons, si vous voulez, et puis un effet de rentrée, hein, qui va... Et donc ça, en fait, on peut la mettre en parallèle, par exemple, vous voyez, avec cette espèce de mouvement arrière, hein, de cette mosaïque qui s'appelle de l'église Sainte-Pude ancienne à Rome, qui date du 4e siècle, qui fait là encore partie des mosaïques les plus anciennes qu'on possède. Et donc on voit bien que au lieu d'avoir une icône purement frontale, au lieu d'avoir une théologie de l'icône qui nous dit « mais regardez, en fait, c'est la gloire », en fait, déjà, cette icône ancienne, du 6e siècle, quelque part, elle intégrait quelque chose d'une part de la dimension d'historia, c'est-à-dire, en fait, d'un fond qui correspond au fond de l'époque, qui fait du Christ une sorte de Christ philosophe, qui peut être peut-être comparé, alors peut-être que cet exergue renvoie à une espèce d'évocation de ce que peut être le portique du temple de Salomon, donc il va... utilisé d'un certain nombre de références parfaitement situées dans l'histoire et qui font que même cette icône dont on pourrait se dire, bah, regardez, elle prétend nous projeter sur la gloire, en réalité non, elle est située elle aussi dans l'histoire. Et en fait, ça c'est vrai de toutes les icônes, qui à la fois ont une théologie qui est très belle, mais qui est postérieure au concile de Nicée II, mais les icônes elles-mêmes ont une évolution stylistique, et donc elles intègrent, si vous voulez, une part de ce que peut être la dimension historique. Et puis, si vous regardez le Christ tel qu'il est, eh bien, et notamment encore plus après sa rénovation, en fait, vous voyez qu'il est très charnel dans sa représentation. Hein. Si vous regardez des icônes postérieures, on va toujours dire qu'il y a une espèce de venue à la lumière, l'icône est en deux dimensions, alors que là, en fait, sur cette icône très ancienne, qui est peinte à l'encaustique, vous voyez bien que d'un côté, elle peut donner les icônes grecques et russes postérieures, mais elle peut aussi donner un Christ du Caravage. Elle est très charnelle dans sa représentation. Le Christ est vraiment très présent, très charnel. Donc si je fais un point là-dessus, si vous voulez, ce que dit l'Église, elle dit, bah oui, je peux voir Dieu dans l'art parce que Dieu s'est inséré dans l'histoire des hommes. Parce que Dieu est venu dans l'histoire. Et donc ça veut dire que ces images qui font mémoire de l'histoire de Dieu parmi les hommes, eh bien, me renvoient à Dieu ultimement. Je parle depuis...
Depuis une demi-heure,
ça va. Donc j'ai encore un petit quart d'heure, donc je vais maintenant vous parler d'une autre partie de mon travail qui était de dire, ok, donc là je suis allé jusqu'où Nicée II pouvait parler, voilà, mais j'avais pas encore complètement répondu à ma question, parce que ma question elle partait aussi du fait que bien d'autres œuvres m'avaient ému, m'avaient touché, m'avaient parlé de Dieu. Et donc en fait, une des choses qui me paraît extrêmement importante, pourquoi j'ai voulu explorer davantage, c'est que si Dieu s'est inséré dans l'histoire des hommes, alors ça veut peut-être que dire que toutes les images, n'importe quelle image, en fait, des images beaucoup plus larges que simplement la représentation de Jésus, peuvent me parler de Dieu. Et donc pour ça, j'ai eu besoin d'aller travailler un théologien du XXe siècle, qui s'appelle Hans Urs von Balthasar, voilà, un théologien suisse, et pour qui, dont je vais vous parler très rapidement un peu de sa pensée théologique. Pour Balthasar, en fait, tout en ce monde va présenter de soi une image. Toute chose en ce monde va avoir une certaine forme d'expressivité. Je vous avais parlé de l'expressivité, on va dire, intradivine, c'est-à-dire le Père s'exprime dans le Fils unique éternellement, dans le Saint-Esprit qui fait le lien entre eux, et puis ce Père vient s'exprimer dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'histoire des hommes. Et bien, Balthasar, il va dire, toute chose s'exprime aussi. Toute chose a une essence, une sorte de fond caché, de fond mystérieux. Et ce fond va se présenter vers l'esprit du sujet connaissant, c'est-à-dire vers moi. Et le lieu de rencontre entre ce qu'il y a de plus caché dans la chose, mais qui vient se manifester, et la connaissance, ça va être à la fois l'image et la beauté. Alors, je vais prendre quelques petits exemples pour nous aider à comprendre. Si c'est une pierre... Bah, la pierre, à la fois, elle est complètement livrée, elle n'a pas beaucoup de mystère, à vrai dire, mais déjà, je peux la voir que sous un certain angle. Donc, elle va se présenter à moi sous une multiplicité d'images. Je peux la regarder, bon, elle est livrée à moi, à mon toucher, à mon analyse. Bon, si je suis géologue, je vais dire, ben voilà, ça représente telle chose ou telle autre. Mais au fond, il y aura toujours quelque chose de caché en elle, une espèce de chose qui ne se montre pas au moment même où elle se montre. Si vous voulez, même une pierre garde une part de mystère, si on veut, et avec tout ce qu'elle est, en fait, elle vient se révéler. Et dans le fait qu'elle se montre, ben, y a quelque chose du mystère, que toute chose en ce monde a quelque chose d'une beauté qui vient se montrer, qui vient resplendir sous mon regard quand je regarde ça. Si je passe à un exemple un peu plus évolué, si je regarde une plante, une fleur par exemple, déjà la dimension de révélation va être plus proche de moi. Je vais pouvoir mieux comprendre parce qu'elle va grandir, croître, s'ouvrir, se déployer. Donc quelque part, la fleur va se révéler, et en même temps, sa part intérieure va être encore plus impressionnante, parce qu'au fond, il y a tout un fonctionnement biologique qu'il faudrait réussir à regarder pour vraiment comprendre ce qui est en train de se révéler. Si je passe à un animal, ben, l'animal, il est à la fois encore plus proche de moi. Si je prends un chien, parfois, il ne leur manque que la parole, on a envie de dire. Et en même temps, ben, à la mesure même où en fait, il s'approche, il a quelque chose d'encore plus expressif, d'encore plus communiquer, bah, y a dans l'animal quelque chose d'encore plus incommunicable, parce que ce qui se révèle à moi, c'est qu'il y a une intériorité que je ne peux pas atteindre, et que donc ce qui se révèle dans l'extérieur, eh bien, vient cacher une profondeur intérieure encore plus grande chez le chien, par exemple. J'ai pris un chien, je continue avec mon chien, quoi. Après, évidemment, si je prends une personne, l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous, ben là encore, il va y avoir une capacité de manifestation encore plus grande. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres qui sont aussi capables de parole. Donc ce que j'ai à l'intérieur, je vais pouvoir le communiquer à travers une parole. Et en même temps, ce qui va être très complexe, c'est que chez un humain, cette parole, elle va être capable de montrer, de manifester, mais elle va être aussi capable de cacher, et même, c'est le drame humain, elle va être aussi capable de mentir, c'est-à-dire de travestir ce qui est vraiment à l'intérieur. Il y a aussi le drame du péché. Mais chez un Balthazar, ça ne va pas être important, parce qu'il dit, mais au fond, même si, par exemple, mon sourire pouvait être non pas un sourire qui transmet de la joie véritable, mais un sourire hypocrite, ça n'empêche pas qu'au fond, un sourire d'homme ou de femme est fondamentalement fait pour transmettre la joie intérieure. Donc même si parfois il est défiguré, hein, l'idée c'est vraiment que plus on avance, plus, en fait, si vous voulez, plus on monte dans l'échelle des êtres, plus nous sommes communicables, plus il y a une croissance dans la capacité à se communiquer, mais à la mesure même où ça croît en capacité à se communiquer, eh bien le mystère s'approfondit encore, parce que, vous le savez, dans toute relation humaine, et je dirais encore plus dans les relations où on aime avec une profondeur immense, ben c'est là que le désir de se communiquer devient le plus grand, et c'est là aussi que le mystère de l'autre s'approfondit encore comme une sorte de puits sans fond et inépuisable. Et donc Balthazar va dire, l'être va ne cesser de se donner comme un mystère qui à la fois se révèle, mais ce qui se révèle, c'est l'être précisément comme mystère. Plus le réel, plus chaque être, chaque chose en ce monde voudra se dévoiler, dévoiler ce qu'elle est, plus au fond, dans le mouvement même où elle se dévoile, elle va toujours encore creuser un mystère profond qui ne sera jamais complètement dévoilé. Ça va ? C'est à peu près... Je n'ai pas parlé trop chinois. Ben, si vous voulez, ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est qu'on voit très bien que c'est la même chose dans le mystère trinitaire. Au fond, au sommet de tout, de toute manifestation, et en fait au fondement de tout ce qui peut se manifester en ce monde, il y a le fait que le Père éternel, qui est le puissant fond de l'amour de Dieu, vient s'exprimer dans son image parfaite, qui est le Fils unique, et dans un éclat, un rayonnement, une gloire qui est l'Esprit Saint. Mais quand plus Dieu se communiquera, plus il sera toujours un mystère infini. Et quand nous le verrons au ciel, ben, on ne sera jamais lassé, parce qu'il y aura toujours une profondeur plus grande. Et ça veut dire que, en fait, ce qui vient fonder toute beauté en ce monde, c'est la beauté même de Dieu. Ça va ? Et donc ça veut dire que, si vous voulez, le monde, dira Balthazar, est comme une immense parabole de révélation qui nous reconduit toujours à notre Créateur et Père, qui nous reconduit toujours à Dieu. Hein, le monde, et si vous voulez, quand vous êtes devant la beauté en ce monde, devant quelque chose qui vous sentez que votre cœur se dilate devant la beauté, ben à la fois vous sentez qu'il y a quelque chose de suprêmement communiqué, il y a une parole qui vous est adressée, une dilatation, un mystère, une joie, et en même temps, ben quelque chose qui n'est pas complètement déchiffré, quoi. C'est-à-dire que la beauté d'un paysage par elle-même, à la fois elle nous parle prodigieusement, et elle nous dit quoi ? C'est pas si simple de savoir quoi. Voilà. Et donc pour Balthazar, pour déchiffrer cette grande parabole du monde, il va falloir que Dieu vienne vraiment se révéler à nous, sinon on ne pourrait pas y aller par nous-mêmes. Et ça, évidemment, là-dedans, il est profondément catholique. Il faut que, si Dieu doit vraiment se révéler à nous, ça ne peut être qu'un acte de Dieu. Et donc, comment Dieu va rendre, en quelque sorte, l'image du monde lisible ? Bien, il va la rendre lisible à travers l'Écriture sainte. C'est-à-dire que dans l'Écriture sainte, il va commencer à se révéler. Il va commencer à travers, par exemple, l'aspiration à un roi qui dirigerait Israël et qui rassemblerait tout le monde dans l'unité. L'aspiration, à travers le sacrifice d'Abraham ou la ligature d'Isaac que vous avez vu au tout début de cette petite conférence, cette petite causerie, celui qui devrait être sacrifié, c'est Isaac, mais on voit dans l'Écriture qu'il y a un bélier qui est gardé pour, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a un bélier qui vient à travers Isaac, et on se dit, où est l'agneau pour le sacrifice ? C'est la question d'Isaac à Abraham. Alors on sait qu'à la fin, il y a un bélier qui est sacrifié à la place d'Isaac, mais dans notre cœur, il y a qui viendra résoudre le problème de la mort en ce monde, qui vient quelque part, vous voyez, mettre un doute sur le sens de la beauté. si la beauté de ce monde, son but, son ultime destination, c'est le néant, alors est-ce qu'elle n'est pas menteuse au fond ? Et donc, ce que Dieu va faire pour nous montrer qu'elle n'est pas menteuse et pour racheter en fait la création qui a été blessée par la mort et par le péché, eh bien, il va mettre des signes de sa venue au fur et à mesure dans l'Écriture sainte. Et finalement, il va venir se révéler dans l'Évangile et dans le Christ qui va accomplir à la fois l'aspiration à un roi, il va être le nouvel agneau, enfin l'agneau parfait, le véritable bélier du sacrifice, il va être le véritable temple. Hein, aujourd'hui, on a vu qu'il fallait reconstruire le temple parce qu'on aspirait à la présence de Dieu parmi les hommes. Ben, qui est le véritable temple ? Hein, Jésus le dit à un moment quand il chasse les marchands du temple, il dit « Vous avez, ne faites pas de ma maison une maison de commerce. » Mais surtout, Saint Jean va interpréter en disant, quand il dit « Détruisez ce sanctuaire et aux trois jours, moi je le relèverai », Saint Jean l'évangéliste va interpréter en disant « Il parlait de son corps. Hein. » Donc, quel va être le véritable temple ? Vous voyez, donc, il y a toute une série d'images qu'on va appeler des figures dans l'Ancien Testament qui sont comme déjà des images de la gloire de Dieu, qui commencent à déchiffrer quelque chose mais qui n'est pas complètement lisible dans l'histoire du peuple d'Israël. Et toutes ces images deviennent lisibles quand ? Eh bien, quand le Christ lui-même vient tout rassembler, vient mourir et vient ressusciter. Et vous savez que le Christ, il disait « Je viens accomplir l'Écriture », c'est-à-dire « Je viens rassembler toutes les images que la Bible emploie. Je suis le nouvel agneau de la Pâque des Hébreux. Je suis la nouvelle manne en distribuant mon corps et en le fractionnant dans les multiplications des pains. » Vous voyez, le Christ, c'est ce qu'on appelle la récapitulation que le Christ fait de toutes choses en ce monde, mais aussi l'accomplissement des Écritures. L'Écriture vient déchiffrer l'énigme de ce monde. Donc en quelque sorte, l'histoire qui était une énigme devient une expression de la révélation de Dieu. Et donc en fait, à travers ça, si vous voulez, tout se synthétise chez Balthazar dans une seule grande image qui va être l'image avec un grand I, l'image théologique qui rassemble toute chose en ce monde et qui quelque part bien rassemble toute l'histoire, toute la création qui est rassemblée dans le Christ qui vient tout rassembler en lui. Eh bien, si vous voulez, pour moi, ça a été une merveille de lire Balthazar, parce qu'en fait, déjà, il ajoutait quelque chose à cette compréhension que la beauté nous conduit à Dieu. C'est-à-dire, quand je regarde une œuvre d'art qui est belle, comment ça se fait que je suis conduit à Dieu ? Ben déjà, parce qu'elle est dans une polarité, je peux la lire à travers ce que j'ai reçu de Dieu, à travers ma connaissance de l'Évangile, donc dans cette polarité entre l'histoire contenue dans l'Évangile et puis les images, et en même temps, bah, la beauté qui vient me dilater vient dire aussi quelque chose de Dieu. Et donc ça veut dire que c'est quoi le prototype des images chrétiennes ? Eh bien si on veut, c'est ce rassemblement de toutes les images dans l'unique image qui est le Christ. Et c'est ça que Balthazar va décrire en fait dans sa théologie. Donc ça nous conduit un peu à ça. Si vous voulez, il y a une expressivité intradivine. Hein ? C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que Dieu s'exprime en lui-même éternellement dans le Fils, hein, il est l'image du Dieu invisible, nous dit saint Paul. Et ça, l'Esprit Saint, hein, par une consonance, ah oui, j'oublie que j'ai mon petit pointeur laser, là, si j'avais retrouvé, voilà. Eh bien, il vient d'abord se révéler dans la création, et ensuite la rédemption vient déchiffrer la création, parce que les figures viennent s'accomplir dans l'image, et puis parce qu'il va y avoir deux autres images qui vont, chez Balthazar, qui vont perpétuer cette image du Christ. C'est que quand le Christ est remonté au ciel, il va rester quoi ? Sa réception dans les cœurs à travers l'Église et à travers le dépôt qui est raconté dans l'Évangile, qui va garder en quelque sorte l'image parfaite de la révélation, l'image canonique, si vous voulez, de la révélation. Ouais, alors là, j'ai mis d'autres trucs, mais je vais passer dessus parce que sinon ça va durer un peu des heures. Voilà, donc si vous voulez, hein, il y a une expressivité en Dieu, et ensuite il vient s'exprimer dans l'histoire, et ça va être toutes ces choses-là, toutes ces figures, tout ce mouvement de l'Église hein, qui agit. Et puis davantage, en fait, si vous voulez, à chaque époque, pour comprendre le mystère qui nous est révélé, eh bien, il va y avoir des gens qui vont essayer de repenser le mystère à partir du fait qu'ils ont été touchés par cette révélation du Christ. Et donc, ce qui actualise ce qui est l'image canonique de la révélation, c'est quoi l'image canonique de la révélation ? C'est ce qui en quelque sorte est le canon pour nous, c'est-à-dire l'accomplissement de toutes les figures d'Israël dans l'unique image qui est le Christ, et qui en même temps est perpétuellement gardé fidèlement dans l'Évangile, qui est tenu toujours en main par les apôtres, c'est-à-dire et par les femmes qui ont été témoins de la résurrection. Hein, vous voyez, il y a le porteur de la révélation et du témoignage de la révélation, c'est-à-dire le dépôt de l'Évangile. Ça va constituer l'image fondamentale. Et à chaque époque, on aura besoin de se réapproprier cette image. Et chez Balthazar, ce qui nous aide à accéder à chaque époque à ce dépôt unique de la révélation, qui est un peu notre foi en Jésus, mais ça va être des théologiens qui vont nous aider à chaque époque à comprendre ce qui se passe dans la révélation de Dieu. Et bien Balthazar, il va situer les images en équivalence avec la théologie. Il va dire au fond, les images qui représentent à chaque époque le Christ et qui cherchent à chaque époque à dire quelque chose du Christ, eh bien en quelque sorte, elles vont être comme des théologies en images. C'est pour ça qu'il va dire voilà, que l'artiste est atteint par la parole totale de la révélation. Donc c'est ce que je vous ai un peu dit, cette parole totale de la révélation du Christ. Et il est appelé à une réponse par la conversion, la foi et la charité. Mais il est toujours aussi appelé à une réponse constituée par la création artistique, dans la mesure où l'événement de cette création fait partie de ce qu'il y a de plus personnel et ne peut être régi de nulle part, la rencontre de l'artiste avec la révélation sera elle-même une rencontre personnelle d'un caractère exemplaire. Cette rencontre personnelle, comment est-ce qu'elle va s'exprimer ? Elle va s'exprimer comme un style. Et donc, je vais vous donner quelques petits exemples visuels. Non ? Vous voyez, vers 300, on est dans la nécropole vaticane, on est tout près de la tombe de Pierre. On a retrouvé cette mosaïque qui représente quoi ? On a envie de dire le quadrige d'Hélios, du dieu soleil. Sauf que ce dieu soleil, en fait, il a un nimbe dont les archéologues sont certains que c'est un nimbe qui renvoie à une dimension un peu cruciforme et avec une auréole particulière, vous voyez, qui rayonne, qui fait qu'on est sûr que c'est la christianisation d'une image païenne pour dire le Christ, si vous voulez. Donc à partir de là, vous voyez, si Dieu s'est inséré dans l'histoire, ça veut dire que les hommes ensuite, pour chercher à dire qui est Dieu, ils vont utiliser toutes les images qui sont à leur disposition et ils vont pouvoir, dans une certaine mesure, les christianiser. Donc certains diront dans les Pères de l'Église que le Christ est le nouvel Hélios. Il n'est pas seulement le nouvel Isaac, mais il est aussi celui qui vient christianiser, vous voyez, la figure d'Hélios. Après, vous allez avoir également, là je vous ai mis des exemples un peu plus grands, mais vous voyez, ça permet de comprendre aussi, ça un orthodoxe il dirait, mais non, ça ne peut pas représenter Dieu. Donc ça c'est un tableau de Zurbarán, là, qui était une de mes passions, là, la peinture espagnole du 17e. Qu'est-ce qui représente un agneau? Bon, dans certains tableaux plus tardifs, ou dans certaines autres versions, il va faire planer une auréole au-dessus de l'agneau. Mais là évidemment je vous ai choisi en fait plutôt un agneau à cornes, qui fait un peu penser au bélier précisément de la ligature d'Isaac. Et donc, qu'est-ce qu'il va représenter à travers ça ? On peut dire un simple agneau. Et vous voyez, à travers ça, il nous montre que cette image du monde, elle vient nous dire quelque chose par la médiation de l'Écriture sainte. Parce que si je n'ai pas lu mon récit de Genèse 22 et mon récit de « Où est l'agneau pour le sacrifice ?», si je n'ai pas lu Exode 12 et le récit de la Pâque, « Vous prendrez l'agneau, vous le mangerez rôti », etc., qu'est-ce que ça peut représenter ? Rien du tout. Mais si en revanche, vous voyez, j'ai cette connaissance de l'Écriture sainte, et voir cette connaissance de la théologie, eh bien un agneau va pouvoir venir dire Dieu et me faire expérimenter quelque chose de Dieu. Et je vais aller maintenant vers une image un petit peu plus sophistiquée, qui est une image du Caravage, donc Michelangelo Merisi. C'est très marquant que Caravage s'appelait Michel-Ange. Et en fait, Caravage il va très souvent reprendre ce geste que vous voyez là, du Christ, qui est le geste du Père éternel dans la chapelle Sixtine, par lequel l'autre Michel-Ange a représenté Dieu créant Adam. Et donc, là, ce que représente Michelangelo Merisi, c'est une recréation différente, qui est plutôt une résurrection, la résurrection de Lazare. Mais alors, c'est là que je vais vous dire que les images, vous voyez, sont plus alignables sur des théologies que sur un mime de l'Évangile. Si on était dans le monde oriental, on vous dirait, ça ne peut pas être une icône, parce qu'une icône, elle retranscrit exactement l'Évangile. Si vous voulez, dans les icônes, il va falloir que Évangile et image se superposent quasiment. Dans le monde occidental, l'art va dire Dieu d'une autre manière. Et alors moi, cette image me bouleverse, elle est à Messine, j'ai obligé des amis prêtres en voyage à Messine, ils me disaient, mais c'est pas ce qu'il y a de plus beau à voir en Sicile. Je dis, oui, mais il y a deux caravages à voir, donc il n'y a pas moyen, et notamment, il y a la résurrection de Lazare. Alors vous voyez que c'est pas du tout cachère, entre guillemets, parce que si je lis l'évangile, comment est-ce qu'il devrait être Lazare ? Debout, enveloppé dans des linges, dans des bandelettes, et Jésus devrait pouvoir dire, déliez-le et laissez-le aller. Là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans un Christ qui voit un Lazare donc, qui est, vous voyez, quasiment complètement nu, excepté donc, un linge qui va lui cacher le sexe. En fait, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça rappelle quand même un petit peu une image que nous avons tous un petit peu en tête, qui est la crucifixion. Vous voyez bien que ce Lazare, il a les bras écartés exactement comme un crucifié. Alors, il a la main gauche qui pend, hein. La main gauche qui pend, c'est ce qu'on va appeler un pathos formel en histoire de l'art, c'est-à-dire une forme qui est très souvent reprise, hein, c'est Panofsky qui dirait ça, par des artistes pour signifier la mort. Hein. Dans les artes moriendi, à partir de la Renaissance, le bras qui pend va être représenté de manière différente pour représenter, vous voyez, le corps qui est vraiment mort. Mais déjà chez Caravage, c'est pas si évident, parce que la main pend, mais elle a comme une espèce de crispation, vous voyez, d'une sorte de mouvement qui la rappelle à la vie. Et puis, alors évidemment, si on regarde la main droite, là, c'est très évident que cette main-là est une main vivante. Vous voyez, la lumière vient la frapper, hein, selon un mouvement donc, qui vient, en fait, de derrière le Christ, et elle vient dire, hein, cette résurrection, vous voyez, de Lazare. Et alors, ce qui est très saisissant, c'est que Jésus, entre guillemets, est en train de ressusciter dans cette image un crucifié. Il est en train de ressusciter un crucifié. Alors, si vous voulez, on peut dire qu'il y a une syncope entre Jean 11, l'évangile de la mort de Lazare, et Luc... c'est peut-être 9... Enfin, il faudrait que j'aille vérifier. Donc, il y a la résurrection, vous voyez, du fils de la veuve, hein, dans la ville de Naïm, où quelque part, Jésus voit une troupe qui conduit une veuve et son fils qui est mort, et il va être saisi de compassion, hein, devant la mort de ce fils unique, et il va ressusciter ce fils unique. Donc on voit bien que, certainement dans l'esprit de Caravage, il y a aussi un être évangile qui est en jeu. Mais la justesse de la représentation de Caravage, c'est que quand on lit l'évangile de Saint Jean, eh bien, la résurrection de Lazare est ce qui, en Saint Jean, fait que les grands prêtres vont décider de tuer Jésus. C'est le miracle de trop. Quand Jésus ressuscite Lazare, il enclenche le processus qui l'emmène à la croix. Donc ça veut dire que Caravage, qui était très très loin d'être un imbécile, qui avait une vie, pas du tout une vie d'iconographe, si vous voulez, parce que dans le monde oriental, un iconographe, il doit peindre en priant. Alors c'est souvent les trucs qu'on me dit pour Notre-Dame, oui, mais quand même, si les artistes sont chrétiens, ça va quand même faire du meilleur art. Oui, alors oui, et en même temps c'est compliqué, parce que vous voyez, Caravage, il est une espèce de génie de l'évangile, il touche le Christ. Sa vie ne touche pas le Christ dans toutes ses dimensions, on est tous d'accord. Mais quand il peint, il se laisse, vous voyez, totalement impacté par quelque chose du mystère évangélique, et il le traduit d'une manière avec une inventivité et une capacité théologique absolument étonnante. Alors évidemment, parce qu'il est imprégné par son temps, peut-être aussi parce qu'il y a des commanditaires, mais Caravage a aussi une capacité d'invention qui est aussi une capacité souvent personnelle. Mais on ne sait pas très bien s'il y avait un programme ou pas, on sait qu'en tout cas, c'était voulu comme une résurrection de Lazare, que ça a été accepté comme tel. Alors que c'est pas très évident, vous voyez, au départ, de recevoir une iconographie pareille. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que si vous allez lire le 12e chapitre de Saint Jean, donc le chapitre d'après, il y a un grand repas où la sœur de Lazare vient oindre la tête, les pieds de Jésus, hein, Marie, et dedans on dit, en fait, les grands prêtres voulaient tuer aussi Lazare, parce que Jésus l'avait ressuscité, et que du coup, tout le monde allait à Jésus. Et donc, vous voyez, cette œuvre, elle dit à la fois que le Christ, à travers cet acte, précipite sa croix, mais que la croix du disciple et la croix du Christ, elles sont finalement très liées, et elles sont liées au témoignage même le plus fort et le plus central de la foi chrétienne, qui est le témoignage de la résurrection. La dimension où nous croyons que celui-là qui a été crucifié, etc., est aussi celui qui est le vivant, et au fil de l'histoire, donc vous voyez, il vient rejoindre un cœur de lui, il vient en quelque sorte déployer une certaine théologie johannique, vous voyez, à travers cette représentation. Voilà. Voilà, je m'arrête là parce que bon, j'ai une image du de Velázquez que j'aime beaucoup, mais franchement, ça nous emmènerait un peu ailleurs. Donc avec ça, si vous voulez, je voulais un peu montrer cet exemple que je voulais vous dire, vous voyez, de cet alignement des images sur la théologie. C'est-à-dire les images, oui, elles nous montrent Dieu, et vous voyez, à travers une série de médiations, la médiation de l'histoire, la médiation d'un homme qui va se laisser impacter finalement par le message de l'Évangile, et qui ensuite va le retraduire de manière, Balthazar dit, de manière totalement personnelle, et ça c'est vraiment la question du style, c'est-à-dire que cet impact absolument unique sur la personne, il va la retraduire d'une manière, là aussi, totalement personnelle, et vous voyez, le critère d'une image réussie, c'est qu'elle va toucher beaucoup de monde. C'est-à-dire que ce trait personnel du Christ qui vient toucher l'artiste va ensuite être communicable à l'extrême aux autres. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure là-dessus. Et en fait, si on réfléchit... Alors là, le Caravage n'est pas un saint. Voilà. Mais vous voyez, dans le charisme propre, et Balthazar va relier l'artiste à une dimension d'un charisme, dans ce qu'il a reçu pour l'Église, il va y avoir une certaine expression de la sainteté de Dieu dans le charisme qui va faire que le plus personnel va être valable pour tous. Et si vous voulez, derrière le critère qu'on peut avoir, c'est la sainteté. Si vous regardez un saint, il n'y a pas deux saints qui se ressemblent vraiment. De loin, on peut se dire qu'ils se ressemblent un peu. De près, un saint, c'est quelqu'un qui est devenu, qui a atteint sa pleine dimension, son unicité personnelle. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est capable de rejoindre tous les autres. La figure suprême de ça étant Marie, qui est à la fois une femme d'Israël et notre mère à tous, parce qu'elle a reçu cette maternité sur la croix. Et vous voyez, c'est là que la dimension personnelle n'est pas une dimension purement individuelle. La dimension personnelle n'est pas une dimension qui nous ferme sur l'incommunicable. Mais je dirais, c'est le maximum de l'incommunicable qui pourtant est aussi le maximum qui se communique. Ça, c'est là le mystère du style artistique et en même temps le mystère de Dieu lui-même. Et donc, vous voyez, c'est cette affinité entre l'art et Dieu. Voilà. Si je fais quelques petites conclusions... Ouais, elles sont pas centrales. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Parce que bon, ça dépend un peu de ce que je raconte, mais comme il faut qu'on tienne dans un temps. Voilà. Donc il y a quelques questions quand même. Si jamais vous devez y aller, allez-y parce qu'on essaye de tenir un petit peu les horaires avec les princes. Donc voilà, vous sentez bien libre. Mais... Alors. Claire-Marie,
oui.
C'est ça.
Ouais. Est-ce que l'expression dramaturgie divine, elle vient de Balthazar ?
Alors, l'expression dramaturgie, alors, il y a dans sa somme théologique, si on veut, la somme théologique de Balthazar, il y a trois parties. Oui. Hein, Balthazar va d'abord penser toute la théologie à partir du beau. Donc ça va être une œuvre en sept tomes qui s'appelle « La gloire et la croix », voilà, qui est une merveilleuse œuvre, hein, extraordinaire. Ensuite, dans un deuxième temps, il va penser toute la théologie à partir de la bonté, et là il va y avoir cette espèce de drame de est-ce qu'on va accueillir la bonté du don divin, et c'est ce qui va, il va la penser beau, notamment à partir du paradigme du théâtre. Donc Balthazar est quelqu'un qui pense beaucoup à partir des arts, et donc cette deuxième partie qui est en cinq tomes va s'appeler la théodramatique, voilà. Donc parce que Dieu vient se révéler en fait dans le drame de l'histoire, et la dernière partie de la somme balthazarienne, qui n'est qu'en trois tomes, et à la fin je pense qu'il doit être un peu fatigué, s'appelle la théologique, c'est-à-dire comment Dieu vient se dire, et là il va penser toute la théologie sous le prisme de la vérité. Et donc il va faire la beauté, la bonté, la vérité, et à travers ça, pour lui, il va y avoir une manière de retraverser toute la théologie à travers ce qu'on appelle à l'époque médiévale les transcendantaux, c'est-à-dire s'il y a de l'être, alors l'être est bon, s'il y a de l'être, alors l'être est vrai. Et le transcendantal le plus discuté, mais que Balthazar vient vraiment vient décider que c'est vraiment un transcendantal, si l'être est vraiment là, alors la beauté est là aussi. Mais en fait, chez Balthazar, c'est pas la beauté en n'importe quel sens. Il prend en compte le fait qu'il puisse y avoir aussi une beauté mensongère, et il va dire pour que la beauté soit sauvée, il faut qu'elle passe par le mystère de la croix. La véritable beauté, elle se révèle dans la croix glorieuse.
Du coup, la dramaturgie, ça rajoute encore une étape. Enfin, en tout cas, la question du théâtre rajoute encore une étape, puisque si l'histoire du salut, c'est aussi un théâtre,
ouais.
C'est-à-dire que l'histoire, enfin, il y a une sorte de narrativisation de l'image de Dieu dans l'histoire et dans le théâtre.
Absolument, voilà. Donc, et c'est pour ça que, vous voyez, la conférence, elle, un peu improprement, je l'ai intitulée « L'art permet-il de voir Dieu ?» parce qu'en fait, moi, dans mon cas, je l'ai beaucoup limité aux images, parce que j'ai beaucoup travaillé à la question de la visibilité, puis parce qu'au départ, j'étais quand même un historien des images plus qu'un historien du théâtre. Mais en fait, l'idée un peu de ce que j'ai cru recevoir, en tout cas de l'Église, et je crois que c'est vrai, c'est que l'Église vient nous donner quelque chose qui a une certaine plasticité pour pouvoir penser les autres arts, donc des arts qui sont plus discursifs comme le théâtre, comme la littérature. Donc il y a un espace, et c'est pour ça que finalement c'est pas plus mal que j'ouvre le cycle de conférences, outre le fait que bon, je suis votre aumônier, donc il fallait bien que quelqu'un s'y colle en premier, mais parce qu'effectivement, derrière tout ça, en fait, on se rend compte que l'Église se prononce sur les images, mais que derrière, il y a des espaces pour aller penser les autres arts. Et chez Balthazar, en fait, il y a un art majeur que lui, il a tout le temps en tête. C'est d'abord la littérature, mais aussi la musique. Il a reçu tardivement dans sa vie le prix Mozart. Et pour lui, c'était une espèce de consécration. C'était un grand pianiste, Balthazar aussi. Et il était absolument fou de Mozart. Dans son œuvre, il y a des commentaires de l'ouverture de Don Giovanni, enfin, il y a des choses comme ça. Parce que pour lui, la musique, justement, a cette discursivité. En réalité, pour vous dire jusqu'au bout, en fait, Balthazar, il déploie tout ça. Moi, j'ai reconnu dans la théologie de Balthazar quelque chose qui confirmait ce que dit Nicée 2. Mais à l'arrivée, dans l'œuvre de Balthazar, il y a très peu d'images visuelles, plastiques. Et moi, à un moment, j'ai dit, mais en fait, pourquoi ça ne marche pas? Et ça ne marche pas parce que chez Balthazar, il y a une phénoménologie, une philosophie première qui est un peu trop simple. Et donc moi, j'ai eu besoin d'écrire un troisième chapitre à partir d'un philosophe qui s'appelle Merleau-Ponty pour mieux comprendre comment il y a une épaisseur des images. Et voilà. Donc bon, un jour, peut-être, on parlera de Merleau-Ponty, mais là, je me suis dit, comme on a essayé de demander aujourd'hui au prince, bon, j'ai combien de temps? 3 quarts d'heure. Ok, bon, on va se limiter à tout ça. Mais donc Balthazar, du coup, comme il est un peu bridé par son... En fait, il a peur que l'image, quand même, à la fin, ne nous arrête au stade de l'esthétique. Pour lui, l'esthétique, il faut qu'elle soit traversée justement par le drame de la croix. Et donc pour lui, le drame de la croix, il va mieux être dit dans le théâtre, dans des arts qui vont avoir une certaine discursivité, une certaine temporalité.
C'est plutôt donc, Aristote que Platon.
Si on veut, mais alors en même temps, il intègre quand même pas mal Platon aussi. Enfin, voilà, donc, ouais. En fait, lui, à l'arrivée, moi je pense que c'est parce qu'il est trop platonicien au fond que du coup, ça lui fait peur au bout d'un moment. L'image lui fait peur parce qu'il se dit « Oulala, je risque de la figer ». Et moi, à travers Merleau-Ponty, j'ai rendu la solution balthazarienne plus aristotélique. C'est bon, ouais, c'est pas... Pardon, Vincent.
On dit que, en quelque sorte, l'image chrétienne idéale à l'issue du concile, ce serait une fenêtre non pas tant vers la gloire directement, mais c'est un caractère de l'histoire. Mais alors, il suffit de regarder un peu plus deux. Donc, enfin, je sais pas, vraiment, le couronnement de la Vierge, le frère Angelico, c'est plutôt une sorte de... vers la gloire, vers les cieux, vers l'histoire. Enfin, en fait, je suis juste.
Alors,
comment vous le faites rentrer? Comment on peut regarder Frère Angelico avec ça?
Alors, il faut lire un livre, si tu ne suis pas seul. Il faut lire Dissemblance et Figuration de Georges Didier Huberman, voilà, qui a consacré tout un livre à Frère Angelico dans le couvent de San Marco, et dans lequel il va montrer à quel point, justement, l'art de Frère Angelico est un art qui prend en compte l'accomplissement. Des figures, une dimension profondément historique, en fait, de l'art. Donc, là où... Mais au-delà de Angelico, et pour aller dans ton sens, à mes yeux, s'il y a art, il y a toujours un moment où l'histoire va quand même être remplie de sa plénitude dans la beauté. C'est-à-dire que ce qui nous touche dans l'art, c'est aussi que l'art est beau. Et donc, dans la beauté, il y a quelque chose de l'accomplissement qui vient se dire... Même dans une œuvre du Caravage, en réalité, il y a une beauté qui vient dire aussi la finalité vers laquelle nous tendons tous. Donc, bien sûr, en fait, mon but, c'était de dire les icônes ne sont pas que de la gloire, en fait. Les icônes, elles intègrent toutes une dimension d'historicité. Mais si l'art nous parle, c'est parce que l'art lui-même, dans une certaine mesure, va dire la gloire. Mais la gloire de Dieu, c'est aussi le fait que toute l'histoire est capable de s'ouvrir à sa présence. En fait. Et l'art, à chaque époque... Alors bon, ça, c'est pour vous dire, c'est un séminaire que je voudrais peut-être créer au Bernardin, donc art et théologie, mais qui est un peu d'étudier à chaque époque quelle conception on se fait de l'histoire, quel lien il peut y avoir entre une révélation de l'être et de la gloire, et comment ça se traduit dans des images plastiques. Donc une sorte de tripode, ontologie, histoire, expression artistique. Donc, tu as raison, au fond, il y a toujours une part de gloire dans l'art. Sinon, ce ne serait pas l'art et on ne s'arrêterait pas devant. Mais en même temps, ce que ça permet d'intégrer, c'est ce que permet d'intégrer la tradition chrétienne, c'est de dire en fait, il y a un art qui élève l'histoire, qui vient glorifier l'histoire à chaque époque, non pas de manière atemporelle ou déjà projetée dans l'au-delà, mais finalement en intégrant la bonté de ce qu'il est à travers l'art pour l'élever au stade d'une parole de beauté, en fait, d'une parole qui dise vraiment la gloire de Dieu, mais qui vient se déployer dans nos êtres. Ça va ?
Oui.
J'aime bien, c'est bien que tout le monde ne soit pas toujours convaincu. Il y a Erwan.
Dans la fin de votre réponse, vous avez commencé à anticiper ma question. Je ne peux pas te poser. Sur la gloire, vous entendez, je pense que vous entendez par là la manifestation objective de l'essence. Du coup, il y a quelque chose qui est assez ambivalent d'être élu. Vous commencez à dire que la gloire de Dieu est aussi sa manifestation dans l'histoire. Mm-hmm. Mais si on dit qu'un Christ pantocrator est un accès direct à la gloire, enfin, ce que vous disiez au début.
Alors, ça c'est dans la théologie de
l'Église. Mais la théologie que vous prenez, au fond, si c'est problématique rien qu'en tant que tel, parce que si la gloire de Dieu c'est sa manifestation dans l'histoire, il y a quelque chose qui
va pas.
Qu'est-ce que la gloire de Dieu
qui épuiserait, en fait, si Dieu se manifeste sa gloire totalement dans l'histoire et dans des images, entre guillemets, il y a quelque chose qui peut épuiser la gloire de Dieu dans une image, et c'est pas possible.
D'accord.
Mais ça, je dirais, même les orthodoxes le reconnaîtraient, mais malgré tout, c'est vrai que les orthodoxes, ils vont dire, et en fait, il y a, si vous voulez, en fait, moi, mon but, c'était aussi de revenir à l'origine, donc au moment où on est tous unis, c'est-à-dire qu'il y a un concile, quand le concile se prononce en 787, il n'y a qu'une seule Église indivise. Et moi, je trouve ça merveilleux de pouvoir revenir au lieu d'une parole où nous sommes tous ensemble.
Voilà. Si tu veux revenir à la question,
qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu ? Voilà. Mais si tu veux, de chaque côté, on va déployer. Alors, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? La gloire de Dieu, c'est la manifestation de tout ce qu'il est, hein, d'une manière telle. Hein, c'est pour ça que Dieu va dire dans la Bible, on ne peut pas voir ma gloire. Et il va dire à Moïse cette phrase extraordinaire en Exode 33, « Je te mettrai dans le creux du rocher, je passerai devant toi, je prononcerai mon nom. Ma gloire, on ne peut la voir, mais tu verras mon dos. » Et ce qui est vrai, c'est qu'encore aujourd'hui dans l'histoire, on peut dire que dans une certaine mesure, on voit le dos de Dieu. Alors, Benoît XVI, Ratzinger, a des pages très très belles dans un de ses écrits sur Jésus, où il dit « On ne voyait que le dos de Dieu dans l'Ancien Testament. » Et quand le Christ s'incarne, ses disciples voient son dos parce qu'ils le suivent. Et donc le lieu de la visibilité de Dieu, c'est la sequela Christi qui nous permet de le voir dans l'histoire, dans le Christ qui s'incarne. Mais c'est vrai que la gloire, c'est quoi ? C'est la manifestation plénière de l'être de Dieu. Le kavod en hébreu, ça va être le poids d'être de Dieu. Ce qui fait que, quelque part, quand Dieu se manifeste, on devrait être rayé sur place parce qu'on ne peut pas tenir devant l'être de Dieu. Et ça va se traduire de gloire, donc kavod, va se traduire en grec par doxa, qui elle va traduire beaucoup plus l'idée de rayonnement, donc de lumière, de luminosité, etc. Alors dans la pratique, on ne peut pas voir la gloire de Dieu, mais comme le dit Irénée, hein, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Donc c'est-à-dire que Irénée va condenser ça en une formule en disant, au fond, nous sommes faits pour voir la gloire, et ce qui est très intéressant, c'est que les Juifs n'arrêtent pas de dire, on ne peut pas voir Dieu, mais dans l'Ancien Testament, moi je dis toujours, on n'arrête pas de le voir, en fait. C'est-à-dire on dit, ah non, on ne l'a pas vu. Sauf que Isaïe 6, je vis Dieu dans son temple, je me dis, ah là là, je vais mourir, je vais être pulvérisé, puis un ange vient tousser ses lèvres, il dit, bon, en fait, c'est bon, tu vois. Il dit, en fait, c'est bon, tout va bien, tu m'as vu, mais ça va, tu peux quand même vivre. Après, Exode 19, ah là là, on peut pas voir Dieu, puis on nous dit, bon, les anciens montèrent, ils virent Dieu, ils prirent un repas, puis ils redescendent. Donc, si vous voulez, en fait, dans l'Ancien Testament, il y a à la fois quelque chose qui nous dit, et c'est vrai, dans l'histoire, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Alors, ce qui nous dit quelque chose de positif, c'est que si je ne peux pas voir Dieu sans mourir, en mourant, je verrai Dieu. Et dans notre vie chrétienne, si on commence un peu à mourir à nous-mêmes, je vous promets qu'on commence à voir Dieu. Voilà, ça c'est... Et le Christ nous apprend à retrouver ce chemin du don total de nous-mêmes, qui passe aussi par des petites morts personnelles, et qui en fait nous rend cet amour plénier qui est la véritable visibilité de la gloire. Mais donc, on dit qu'on ne peut pas le voir, mais en fait, on le voit. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de tension dans l'Ancien Testament, permanente, entre on maintient qu'on ne peut pas le voir, et on a raison, parce qu'on ne le verra qu'au bout de l'histoire, quand nous aurons traversé la mort, et en même temps, on le voit sans cesse, parce qu'en fait, il ne cesse d'accompagner le peuple élu dans l'histoire. Donc il y a une espèce d'excès, si vous voulez, dans le récit de ce qui est raconté, et qui maintient une sorte de suspense où on dit, bon, on le voit pas, on le voit pas, on le voit pas. Mais en fait, on le voit. Mais si je résume les choses quand même, si je résume quelqu'un qui vient résumer l'Ancien Testament et faire le constat et en même temps nous tourner vers le Christ, c'est Saint Jean. Donc vous irez lire relire le prologue de Saint Jean. Les derniers versets. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est contre le sein du Père, eis ton kolpon tou patros, celui qui est vers le sein du Père, qui est dans la Trinité et entièrement tourné vers le Père, celui-là, alors on vous traduira dans beaucoup de Bibles, nous l'a fait connaître, en réalité, exegesato, celui-là nous en a fait le récit. Donc si vous voulez, cette visibilité de Dieu qui n'avait, et évidemment Saint Jean met en parallèle Jésus avec qui ? Avec Moïse qui avait dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu avait dit, non, tu ne peux pas la voir. Donc la visibilité de la gloire, elle va être vue dans le Christ. Et c'est Saint Jean, ça me permet de citer un éminent aumônier de notre école, l'homélie que le père Florent nous a faite pour la croix glorieuse. Ben, chez Saint Jean, précisément, le moment où on voit la gloire, c'est le moment de la croix. Où tout s'arrête dans le récit, où il dit, il voit le côté transpercé du Christ. Et il dit, attendez, en fait... il faut s'arrêter, regarder, en fait, c'est là qu'est la gloire de Dieu. Là sont rassemblées toutes les figures d'Israël.
Merci.
Compli.
Il y a une conception souple du 22h, mais je vais rester.